aujourd'hui, il s'agit de dire quelques mots d'une décision de la Cour de cassation de la première chambre civile du 26 mars 2025, qui est un arrêt intéressant, ce qu'il se prononce pour la deuxième fois seulement depuis ces dernières années, sur une hypothèse particulière qui est celle de la vente de titres négociables d'une SAS pendant une procédure de divorce, avec un risque de recel. Alors là où cette décision est intéressante, c'est que l'époux qui avait décidé de vendre, qui était un expert comptable, a trouvé utile de le faire au milieu de sa procédure de divorce, alors que la société pour laquelle il travaillait se restructurait, et avec l'idée qu'il fallait créer une nouvelle structure pour facturer l'ancienne. Là où la question se pose en droit des régimes matrimoniaux, c'est à propos de ses pouvoirs, et de savoir si cet expert comptable avec ses titres de SAS pouvait céder ses titres sans demander l'accord de sa femme, sachant qu'il sortait d'une procédure de divorce donc qui n'était pas tout à fait finie, qui avait duré plusieurs années et qui était assez contentieuse. Alors on ne connaît pas évidemment tous les détails de l'histoire, mais ce que l'on sait, c'est que la Cour d'appel, elle, a considéré qu'il n'y avait pas de recel, mais a trouvé qu'il aurait fallu que la vente des titres puisse se faire dans des conditions différentes de ce qui avait été ordonné. Et la Cour a considéré, Cour d'appel, que le rattrapage se ferait au moment du partage en valeur. Là où la décision d'appel, critiquée par l'épouse, a été censurée devant la Cour de cassation, c'est en raison de l'erreur de qualification des parts sociales qui a été effectuée par la Cour d'appel, celle-ci ayant considéré que des parts de SAS étaient des parts non négociables et qui donc supposaient d'avoir l'accord de son épouse pour être cédées. C'est évidemment inexact et c'est la raison pour laquelle la Cour de cassation corrige en disant que des parts de SAS n'ont pas besoin pendant le fonctionnement de la communauté de l'accord de l'épouse, mais qu'en revanche, une fois l'indivision post-communautaire commencée et donc après les mesures provisoires du divorce, il était nécessaire d'avoir l'accord de madame. Alors cette décision est intéressante puisqu'elle rappelle cette règle qui est tout à fait vraie, des titres sociaux négociables pendant la communauté ne sont pas soumis à cogestion, chacun des époux peut les céder librement, contrairement à des titres sociaux non négociables, tels des parts de SCI, de SARL, qui eux supposeraient d'être soumis à cogestion. En revanche, pendant l'indivision post-communautaire, donc après la date des effets, après le début de la procédure de divorce, les règles s'inversent et les parts qui étaient anciennement librement négociables, sans cogestion, deviennent soumises à cogestion, alors que les parts qui, elles, étaient soumises à cogestion du temps de la communauté, sont librement cessibles. Tout l'intérêt de l'arrêt est de rappeler cette première règle, ce qui est une chose assez intéressante en soi, mais surtout, l'arrêt en tire une conséquence en termes de recel qu'il convient de souligner. La Cour de cassation ne dit pas qu'il y a recel, elle laisse ça à la Cour de renvoi, ce sera de l'appréciation souveraine, mais ce qu'elle dit, c'est qu'il y a une espèce de présomption qui existe, en tout cas on peut imaginer que l'irrégularité de la cession sans l'accord de madame pendant la procédure de divorce a un parfum de recel qu'il conviendra que la Cour de renvoi apprécie. Cet arrêt néanmoins pose une difficulté qui est qu'il est intégralement construit sur la remontée des effets du divorce, l'article 262-1 du Code civil, et tient son raisonnement du fait qu'à la fin de la communauté succède rétroactivement une indivision post-communautaire. Tout le problème, me semble-t-il, de cette décision est que la Cour a oublié que derrière l'article 262-1, il y a un autre texte, beaucoup plus méconnu, mais bien réel, qui est l'article 262-2, qui lui nous dit que pendant l'indivision post-communautaire, les actes qui sont accomplis régulièrement en termes de pouvoir, eu égard au régime matrimonial, ne sont susceptibles d'être annulés qu'en cas de fraude. Et ce texte 262-2, qui complète le premier 262-1, indique bien que les pouvoirs pendant l'instance en divorce, de l'assignation jusqu'à la décision de divorce définitive, sont des pouvoirs qui sont ceux du régime matrimonial, et qu'en cas d'irrégularité, qui peut être un acte de gestion anormal sur les biens communs, ou qui peut être un cas de fraude caractérisé, la sanction n'est pas l'inopposabilité, comme on l'a dans le droit commun, mais la sanction est bel et bien la nullité. Ce qui veut donc dire que la Cour de cassation, qui impose un raisonnement binaire, qui cherche à dire que ces parts de SAS librement cessibles du temps de la communauté ne le sont plus pendant l'indivision du fait de 262-1, a oublié que si l'on applique l'article 262-2, pendant l'instance en divorce, et uniquement pendant l'instance en divorce, cet expert comptable avait les mêmes pouvoirs que du temps de la communauté, et donc pour des parts de SAS, il était libre de les céder comme il le voulait. Ce ne serait évidemment pas vrai s'il avait fait la cession après le prononcé définitif du divorce, mais pendant la procédure, on se demande pourquoi l'article 262-2 du Code civil n'a pas été appliqué par la Cour de cassation. Alors ce sera évidemment à la Cour de renvoi de décider s'il y a un cas de recel ou non, mais ce qui sera intéressant de suivre dans cette instance de renvoi, c'est le fait de savoir si le fait que la cession s'est faite sans l'accord de madame est toujours considéré, ou en tout cas soupçonné, comme étant une espèce de présomption de recel, ce qui est d'autant plus étonnant que le recel d'habitude est de droit strict et qu'on ne peut pas le présumer. C'est-à-dire, est-ce que la Cour de renvoi a un raisonnement qui sera plutôt fondé sur 262-1, ou est-ce que la Cour de renvoi se fondera plutôt sur 262-2, en disant qu'il avait des pouvoirs qui étaient réguliers en termes de fonctionnement de son régime matrimonial pendant l'instance en divorce, et que de ce fait, le fait qu'il n'ait pas demandé l'accord de son épouse ne peut pas lui être reproché. Cela est d'autant plus vrai que ce mari avait partagé le prix de vente des actions. Rien ne nous dit qu'il les avait vendues au bon prix, ça c'est tout à fait vrai, mais cela signifie que si madame n'est pas d'accord avec le prix de vente, ce sera à elle de démontrer qu'il y a une fraude, exactement comme 262-2 l'impose. Un dernier mot pour dire que si l'on applique la théorie de la Cour de cassation à la lettre, qui veut dire que ces parts de SAS cédées pendant la division post-communautaire, pendant la procédure de divorce, est un acte irrégulier du fait de la rétroactivité de 262-1, sous l'angle du recel, on est un peu gêné, puisque que ce soit pour l'aimant moral ou matériel, ça ne marche pas, cet époux avait le pouvoir pour le faire, c'est 262-2 que je viens de vous évoquer, mais pour la Cour ce n'est pas un problème puisqu'elle ne l'applique pas, évidemment. Et puis il y a une autre objection sur le recel qui me paraît déterminante, qui est que le recel permet une faculté de repentir. Or, le raisonnement de la Cour de cassation, qui nous dit que la rétroactivité avec la création de l'indivision crée automatiquement un problème d'irrégularité en termes de pouvoir, eh bien il ne pourra jamais y avoir de repentir si l'on applique automatiquement cette rétroactivité. C'est la raison pour laquelle il nous semble, et je ne suis pas le seul, en doctrine, ces questions avaient été balayées déjà par le professeur Champenois ou le professeur Vincent Brémond, nous sommes quelques-uns à penser qu'il vaudrait mieux ne pas perdre de vue l'application de l'article 262-2 et donc l'appliquer. Donc c'est une affaire à suivre.